Bonjour, bon, je suis d'abord très content d'être là. Moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une boîte noire, comme vous voyez à l'écran. Une boîte noire qui s'appelle ACTA. Donc, on a tout. Là, on a un sigle, on a une boîte noire, on ne sait pas de quoi ça parle. C'est l'étape suivante, en fait, de ce que vient de raconter Louis Weber, c'est-à-dire la question des brevets. La question des brevets qui est aujourd'hui un des aspects centraux dans les politiques de santé publique et la façon dont l'industrie du médicament est structurée et impacte les questions de santé publique au niveau international. Donc ACTA, et ça va être l'objet de mon intervention, je vais essayer à travers ACTA, qui est, en gros, ACTA, c'est la dernière mouture d'un accord international sur la contrefaçon et la propriété intellectuelle, qui est en train de se négocier en ce moment même, la prochaine réunion est prévue à la fin du mois, qui s'est négocié longtemps en secret. Donc l'image de la boîte noire, c'est pas juste que dedans je vais vous expliquer des choses, c'est que ça a longtemps été une vraie boîte noire, c'est-à-dire que ça a été négocié totalement en secret pendant près de 3 ans. Le texte de négociation en cours a été rendu public seulement en avril dernier, donc c'est très récent, avec comme objectif d'avoir un accord international qui soit signé, l'État affiche un objectif de avant la fin de l'année. Donc on est dans des délais qui sont entre la zone, disons la partie immergée de l'iceberg, où on négocie tranquillement à l'abri des opinions publiques et même des élus, comme le dira François Castex, il y a eu près de 3 ans, et puis finalement un petit rush de quelques mois, où là ça se fait entre guillemets en transparence. Donc ACTA, ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire, en français, c'est ACARC, donc accord commercial anti-contrefaçon, ou alors accord commercial relatif à la contrefaçon. ACTA, c'est Anti-Counterfeiting Trade Agreement, donc c'est la traduction. Et on va ouvrir cette boîte noire pour essayer de comprendre, à travers cet exemple, qui est un énième exemple de durcissement des règles générales de la propriété intellectuelle, on va essayer de comprendre en quoi le système des brevets sur les médicaments s'insère dans une mondialisation et des politiques de mondialisation liées à la propriété intellectuelle qui sont générales, qui remontent à plusieurs dizaines d'années, qui s'accélèrent ces temps-ci et qui défient les règles actuelles de la façon dont la communauté internationale peut agir démocratiquement. Donc, on ouvre un peu la boîte noire parce que dedans, ce qui est important de comprendre, c'est qu'évidemment, on va parler de santé publique, on va parler de vie privée, on va parler d'accès à la culture. Comme on l'a vu tout à l'heure, on va revenir un peu à la base, on l'a vu tout à l'heure sur la question des brevets. Donc les brevets sont à gauche, le droit d'auteur est à droite. Sous ce chapeau, on rajoute les marques, on appelle ça propriété intellectuelle. C'est une expression que j'aime pas tellement utiliser parce que propriété rappelle la propriété physique et souvent on a tendance justement à singer les règles alors qu'il s'agit de droit sur l'immatériel. C'est en gros qui bénéficie de droits sur l'immatériel, que ce soit de la musique, que ce soit des œuvres, que ce soit des inventions. Donc c'est ça la question centrale posée par la propriété intellectuelle. Louis Weber l'a rappelé, en matière de brevet, mais comme en matière de droit d'auteur, dès la fin du XVIIIe siècle, le principe général de la propriété intellectuelle était extrêmement clair. C'est d'un côté, il y a l'intérêt particulier du créateur, qu'il soit inventeur, qu'il soit artiste, qu'il soit auteur. C'est l'intérêt particulier, c'est qu'il faut le protéger pour qu'il puisse être incité à créer. Et il faut que la société lui reconnaisse un dû vis-à-vis de sa création. Et de l'autre côté, il y a évidemment l'intérêt général, c'est-à-dire que la société a tout intérêt à ce que les créations, les inventions circulent le plus largement possible. Donc cet équilibre était la racine de la propriété intellectuelle, et on le voit sur le schéma que je mets à l'écran, que ce soit en matière de brevet ou de droit d'auteur. En matière, on va commencer par les droits d'auteur, on va revenir sur les brevets. Le droit d'auteur, aujourd'hui, ça définit une zone privée, privative, et un intérêt commun. C'est en haut, la partie privée, c'est le droit d'auteur. 70 ans, jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, il y a un droit exclusif sur toute création. Pendant ce temps-là, c'est l'auteur qui en bénéficie, qui peut autoriser ou interdire la reprise de sa musique et qui peut être payé pour ça. De l'autre côté, ça a toujours été limité au titre de cet équilibre. Donc 70 ans après la mort de l'auteur, ça tombe dans le public. Donc ça appartient à tous, tout le monde peut le récupérer. Il y a au sein même, avant même la fin des 70 ans, il y a des tas d'exceptions au droit d'auteur qu'on pratique tous les jours. La copie privée, on a le droit à titre personnel de copier une œuvre juste pour soi, pour accéder à la culture. Cette copie privée est d'ailleurs compensée par une taxe sur les supports de copie, sur les CD vierges, etc. Le droit de citation est une exception évidente qu'on pratique tous les jours sans même y penser, mais qui est inscrite dans le droit. C'est-à-dire que, évidemment, un auteur ne peut pas interdire qu'on cite un extrait court de son œuvre. C'est impossible. Et on imagine bien ce que serait la vie démocratique ou la vie culturelle si on ne pouvait pas citer les œuvres. Le droit de parodie existe aussi. C'est-à-dire on peut se servir d'une œuvre pour parodier cette œuvre. Voilà, donc il y a des exceptions, il y en a plein. C'est au cœur même du droit d'auteur. De la même manière, les brevets. J'ai mis un médicament, mais on est sur l'idée d'invention en général. De même, les brevets sont limités à 20 ans. Au bout de 20 ans, une invention tombe dans le domaine public. Tout le monde peut se la réapproprier. Dans le cas des médicaments, c'est très clair. Au bout de 20 ans, n'importe quel labo pharmaceutique peut faire des génériques. Et ce sont les génériques qui, après, permettent de baisser les prix, d'obtenir de l'accès aux médicaments facilités, etc. L'UEBR a évoqué les licences obligatoires, qui sont quelque chose de crucial dans l'équilibre des brevets. C'est-à-dire que tout État peut, alors selon les textes en vigueur, selon les époques, évidemment ça change, mais en cas de situation d'urgence, peut édicter une licence obligatoire et donc autoriser la copie, tant pis si le brevet n'est pas terminé. Alors en général, il y a des compensations qui sont prévues, mais qui n'ont rien à voir avec le pouvoir de marché conféré par le brevet lui-même. Et la licence obligatoire, le dernier exemple qui avait été absolument incroyable dans cette histoire, c'était les États-Unis s'en sont servis il y a moins de 10 ans, au moment de la crise de l'anthrax. Le seul médicament qui permettait à l'époque de prévenir les crises liées à l'anthrax, c'était la Cipro, du laboratoire Bayer. Alors, il se trouve que le gouvernement américain est allé voir Bayer, et les médicaments sous brevet, donc on commence une négo commerciale classique, on a besoin de grosses quantités, finalement la crise de l'anthrax est déterminée, on a besoin de grosses quantités, comment vous nous le faites, Bayer faisait des prix trop élevés, ta, ta, ta. Donc qu'a fait le gouvernement américain? Il a dit, si vous continuez à m'emmerder, je fais une licence obligatoire, il y a 15 labos qui sont prêts à copier votre molécule, on aura ce qu'il faut. En général, le simple fait de menacer d'éditer une licence obligatoire suffit à faire reculer le laboratoire. C'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Il y a d'autres cas où c'est important d'aller jusqu'au bout de la copie pour justement pouvoir s'approprier les techniques. Et c'est le cas notamment de ce que font parfois les pays du Sud, et vous aurez l'occasion d'en parler dans ce colloque. Il y a plein d'autres exceptions au brevet. L'usage expérimental en est un. On ne peut pas interdire à quelqu'un, même s'il y a un brevet, de faire des expériences avec une invention. Donc à chaque fois, on voit bien que ce soit brevet ou droit d'auteur, on a toujours cette balance qui délimite le privé d'un côté, l'usage privatif, le capital, et de l'autre côté, le commun, des domaines où la société a accès à la connaissance en général, qu'elle soit culturelle ou liée à l'invention. Sauf qu'évidemment, tout ça, depuis quelques dizaines d'années, change. C'est-à-dire que ce soit en droit d'auteur ou en brevet, on le voit sur le droit d'auteur, il y a le privé prend de plus en plus d'ampleur. Et ce qui est commun, de plus en plus, cette balance est en train de pencher d'un côté et qu'on renforce de plus en plus le pouvoir des titulaires de droit. Donc rapidement, en matière de droit d'auteur, là je disais comme ça, 70 ans après la mort de l'auteur, c'est la durée aujourd'hui en France, c'est une durée qui a été allongée régulièrement, qui a été allongée dans le cas notamment de ce qu'on appelle les droits voisins, qui sont le droit d'auteur, c'est les auteurs, les compositeurs, c'est les paroliers, ceux qui écrivent la musique. On appelle aussi les droits voisins les droits des producteurs et des artistes-interprètes, ceux qui chantent, qui n'ont pas exactement les mêmes droits, qui sont plus limités, qui ont longtemps été à 50 ans en droit européen, 50 ans après que le morceau, par exemple, que la musique soit dans le public. Ça a été allongé récemment par le Parlement européen, en tout cas par l'Union européenne. Les États-Unis ont allongé la durée du copyright à une dizaine de reprises en 200 ans. Donc on a un allongement. En parallèle, il y a dans la loi, depuis une dizaine d'années, progressivement des nouveaux mécanismes qui arrivent pour renforcer encore plus le rôle des titulaires de droit, notamment ce qu'on appelle les digital rights managers. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus en France notamment, sur ce fameux système anti-copie, en fait, qui contrôle les œuvres elles-mêmes sur les fichiers numériques, et qui vont décider si vous avez accès ou pas au fichier, combien de fois, etc. Et ce genre de système, qui aujourd'hui est protégé par le droit international et français, ce genre de système va tout simplement impacter ce qu'on voit en dessous, c'est-à-dire le droit de citation, le droit de copie privée. S'il y a un système anti-copie sur une œuvre, ben vous ne pouvez pas la copier, vous ne pouvez pas exercer cette exception qui est le droit à la copie privée. En matière de brevet, alors le phénomène est un peu le même. Louis Weber l'a rappelé, l'extension des brevets passe d'abord par une multiplication des domaines couverts par les brevets. C'est-à-dire que Jefferson, qui a été aux États-Unis un des premiers commissaires aux brevets de la jeune République américaine, a écrit de très beaux textes sur la parcimonie avec laquelle il fallait accorder un brevet à un inventeur. C'est qu'à la fois, le brevet est quelque chose de magnifié, c'est-à-dire que l'invention est quelque chose de magnifié, mais elle devait être rare. C'est-à-dire que l'invention, ce n'était pas n'importe quoi. Et il y avait des tas de domaines, parce que Jefferson était convaincu que rien ne s'appropriait aussi mal que la pensée, et qu'il était toujours... il fallait toujours réfléchir à deux fois avant de privatiser la connaissance. Donc ça ne devait être qu'une exception, l'accorder des brevets dans des cas exceptionnels, et on a pu pendant très longtemps. Ça a explosé depuis très longtemps, c'est-à-dire que maintenant, des brevets, on en accorde extrêmement facilement, des milliers et des milliers chaque année, qui sont, beaucoup sont totalement triviaux, c'est-à-dire que normalement on accorde des brevets uniquement quand il y a une véritable invention, c'est-à-dire quelque chose qui est très nouveau, qui est original. Il y a des critères très stricts, ces critères se sont progressivement détendus, et maintenant, vous discutez avec n'importe quel responsable de dépôt de brevet dans n'importe quelle grande entreprise, les gens rigolent. C'est-à-dire que déposer un brevet, ça n'est plus qu'une technique d'écriture, ça n'est pas inventé. C'est simplement, il y a des formes à respecter, et puis on fait passer n'importe quelle pseudo-invention pour une invention. Ça a été très ouvert, et donc on a étendu par ce jeu-là les domaines couverts par des brevets. Et donc maintenant, on peut breveter du vivant. On peut breveter des logiciels, on peut breveter donc des médicaments, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que ça fait longtemps que ça a été le cas. Donc les brevets s'étendent à la fois en nombre, de plus en plus de choses sont couvertes, la machine Nespresso, par exemple. Tout le monde connaît la machine Nespresso, c'est 1700 brevets. 1700 brevets. Vous voyez la tête de la machine. Vous dites, comment on place 1700 inventions là-dedans? Oui, c'est pas une invention, c'est 1700 inventions différentes. On commence à regarder les brevets, c'est pareil, c'est vrai, il y a plein de choses triviales, il y a plein de choses qui ont déjà été déposées, peu importe. Ça sert à quoi? Ça sert juste à faire une espèce de guerre, à essayer de bloquer l'entrée des concurrents, donc ça devient un jeu interne à la concurrence, c'est pas du tout quelque chose qui est censé récompenser l'innovation. De la même manière, le droit, de plus en plus, et notamment depuis le milieu des années 80, on peut dater au milieu des années 80, l'accélération de ce phénomène de renforcement des droits, des titulaires de droits en propriété intellectuelle, et ça correspond, c'est pas un hasard, au début des années Thatcher et Reagan. Tout simplement. Donc, ce qui correspond aussi à la montée en charge du néolibéralisme, à une obsession de plus en plus grande de la propriété, du capital et à renforcer le rôle des entreprises. Donc, en matière de médicaments, par exemple, il y a eu d'autres moyens de renforcer le rôle des brevets. C'est que notamment un médicament, certes, il y a le brevet, mais on a accordé aussi à l'industrie pharmaceutique des exclusivités sur leurs essais publics. C'est-à-dire que les données tirées des essais publics qui font partie en quelque sorte de l'invention médicament, parce que c'est bien beau d'avoir une molécule, mais s'il faut croire sur parole pour montrer qu'elle est efficace, ou dangereuse, ou pas, etc., ça ne fait pas grand-chose. Donc finalement, il y a des essais publics qui sont coûteux, forcément payés par l'État d'ailleurs, mais il y a eu des exclusivités qui ont été accordées sur ces données-là pour prolonger en fait la durée de vie des brevets, ce qui est l'avantage de l'industrie pharmaceutique. Sur les licences obligatoires dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, c'est un phénomène. Très longtemps, la licence obligatoire, on regarde les textes du 19e siècle sur les brevets, même du début du 20e, on regarde les textes français, les textes anglais, les textes américains, sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec un brevet. Mais, en gros, il y a plein d'exceptions, et elles étaient absolument, mais c'était écrit noir sur blanc, ça. En gros, l'État avait le droit de décider en cas de, alors c'était urgence, ou d'intérêt national, donc il y avait des termes comme ça, qui laissaient à l'État toute latitude à un moment de dire non, ce brevet-là, on n'en veut pas, donc on le fait sauter licence obligatoire. De plus en plus, la tendance étant à l'internationalisation de ce droit, à des jeux de pouvoir, comme on le verra après, les licences obligatoires, et Louis Weber l'a expliqué, sont de plus en plus contestées, bornées, difficiles à appliquer par des jeux diplomatiques internationaux. Donc comme on l'aura compris, la tendance c'est moins de commun. Donc de plus en plus de pouvoir aux titulaires de droit, un renforcement des brevets, de la propriété intellectuelle en général, et j'insiste sur ce en général parce que c'est des phénomènes totalement concomitants. Qu'est-ce que ça veut dire moins de commun? C'est pas juste comme ça, là c'est embêtant. Ça a des conséquences concrètes sur la connaissance, sur la santé publique, sur la culture. Moins de commun, c'est évidemment moins facilement de l'accès au savoir, tout simplement à partir du moment où il faut payer plus cher, où il y a des DRM sur les œuvres, où les inventions sont bardées de brevets dans tous les sens, on a moins d'accès au savoir, moins d'accès à la connaissance, moins d'accès aux médicaments directement, évidemment pour les pays du Sud. S'il y a des brevets sur des médicaments, c'est le but d'ailleurs des brevets, ça permet à l'entreprise d'exercer un pouvoir de monopole, donc de fixer le prix qu'elle veut. Et donc évidemment, elle fixe le prix en fonction des populations les plus solvables, les plus riches, et pas en fonction des plus pauvres, donc c'est moins d'accès aux médicaments. À ce titre, moi j'ai un exemple très frappant sur comment ça s'exerce dans les pays du Sud. Longtemps, je n'avais pas compris pourquoi, dans les accords internationaux, les multinationales de la pharma étaient aussi obsédées de vouloir mettre des brevets sur les médicaments dans les pays du Sud. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Le Botswana, même le pays du Sud, il y a pas beaucoup de pauvres. Il y a des endroits absolument incroyables, au Cambodge. On ne comprend pas, tout d'un coup, ils se mettent à mettre des standards de propriété intellectuelle invraisemblables dans des pays qui n'ont pas une thune. On s'est dit, mais à quoi ça sert? Alors, au début, je pensais qu'ils voyaient à 20 ans, ça dit, ils font des paris, ça va se développer, et puis à un moment, ça va leur apporter. Mais non, parce que les entreprises ne reviennent pas à 20 ans. C'est un peu par hasard, ils ont toujours renforcement, et puis après, on discute. Mais là, c'est même pas ça, c'est que leur objectif était très clair, et c'est de la bouche même d'un vice-président de la société américaine, il m'a dit, mais arrêtez d'être naïf, Nous, on fait des brevets et on vise les 1% de la population qui a du pouvoir d'achat. Et on lui vend très cher. Et comme dans ces pays, en général, les inégalités sont extrêmement fortes, eh bien, ça fait un marché. Donc là, oui, avec nos yeux comme ça, on se dit, ah bah oui, mais il n'y a pas vraiment de marché, ils sont tous pauvres, leur revenu moyen est très bas. Oui, mais sauf que même dans les pays très pauvres, dans la plupart des pays très pauvres, il y a des inégalités extrêmement fortes. Et donc, ils parient sur des marchés très ciblés, avec un cynisme qui est juste invraisemblable. On vend du médicament, et de façon très cynique, on se dit, bah en fait, le marché, il est là, c'est 1% de la population, pas les autres. Ce que ça donne dans des maladies comme le sida, etc., c'est remarquable. Moins de commun, c'est aussi moins d'innovation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste. Alors, souvent, ça, c'est. Ici, on est plutôt entre gens, j'allais dire, convaincus, mais j'ai participé à des assemblées où la salle était plus hostile à ce genre de discours. En général, c'est quelque chose que les gens oublient, c'est que moins de commun, c'est aussi moins d'innovation, parce que tout simplement, la connaissance se nourrit de connaissances. Quand je dis qu'il y a 1700 brevets sur une machine Nespresso, vous imaginez que demain, pour faire une machine à café, ça coûte un petit peu cher de contourner les brevets, d'essayer de voir ce qu'il y a dedans, etc. Et c'est partout pareil. Aujourd'hui, les inventions sont des objets composites, complexes. Donc, plus il y a de brevets, plus c'est difficile. Plus c'est difficile d'accès, plus c'est coûteux. Et donc, au bout du bout, ça fait moins d'innovation, ou une innovation ralentie, réservée à des acteurs extrêmement puissants qui ont les moyens entre eux, et c'est d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui, de dealer des accords. Genre, par le portefeuille de brevets, un concours de portefeuille de brevets. Donc moi j'ai 5000 brevets, toi t'en as combien? 4500, bon, on va pas s'attaquer. C'est comme ça que ça se passe. Donc moins d'innovation, et c'est évidemment vrai, c'est moins de création culturelle aussi, puisque je ne fais pas l'histoire de la culture, mais la culture se nourrit évidemment de l'inspiration, du remix, de la réutilisation à chaque période. Moins de commun, c'est aussi qu'il faut, à partir du moment où on a décidé de durcir la propriété intellectuelle, on le voit tous les jours. Ben, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que oui, comme on dit, il y a toujours une différence entre la loi et l'application de la loi. Et appliquer des lois dures et injustes, ça ne se fait pas très simplement. Donc moins de commun, c'est tout simplement une résistance de beaucoup de gens. Donc ça donne des batailles contre la copie et contre les internautes. Ça, on l'a vu avec les histoires d'Adopi et compagnie, ça fait des procès contre les internautes. On essaie de faire sauter des lois sur la vie privée pour avoir accès à des données privées sur les internautes pour les retrouver. Ça donne des discours martiaux tenus par des artistes qui ont peut-être autre chose à faire que se retrouver avec un képi de policier. Donc ça donne quand même une drôle d'atmosphère. Ça fait, tout simplement, dans le cas de la santé et des médicaments, une bataille contre les malades. C'est rien d'autre. Quand on voit effectivement qu'on réserve des médicaments à 1% de la population parce qu'on veut les vendre très cher, bah, évidemment, les 99 autres % de la population, on les abandonne. C'est une bataille plus généralement contre le Sud. Puisque la plupart, évidemment, des gros titulaires de droits, que ce soit en brevet, bien entendu, mais aussi en droit d'auteur, sont des entreprises et des multinationales qui viennent des pays riches, des pays du Nord. Bon, c'est très bien, on a vu la tendance, mais maintenant, qui décide tout ça? Parce que c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est comment ça se renforce tout ça. Alors, je me dépêche. Donc voilà, on est à Washington, on voit les usual suspects, les Microsoft, United Universal, j'ai mis des sigles, bon, pharma, c'est l'industrie de la pharmacie américaine, IFPMA, c'est l'industrie mondiale. Hop. Donc évidemment, des lobbies. Là, je suis là où vous travaillez pour cette procédure. Vous connaissez la situation. Voilà. Donc pareil.
Il y a les mêmes, hein.
Voilà, j'ai mis les mêmes. J'ai mis les mêmes. J'ai mis exactement les mêmes. Bon, aujourd'hui, l'immatériel est complètement au cœur de la mondialisation et c'est devenu même un relais. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une histoire de lobby. C'est qu'il y a des politiques pour porter ces politiques de renforcement continu de la propriété intellectuelle, tout simplement au nom de la compétitivité. Totalement assumé. Voilà. Ça, c'est un des négociateurs de l'ACTA, justement, qui nous dit la propriété intellectuelle, c'est un élément de la compétitivité européenne, elle doit être protégée dans les pays tiers, point barre. Donc, on renforce les brevets chez nous, parce que de toute façon, les Chinois, croit-on, vont passer leur vie à faire des choses pas chères, de la fabrication, hein, et puis nous, on sait créer, on sait faire du design, on sait inventer. Donc, on protège bien tout ça, cette créativité, ces inventions, et puis on va la protéger en Chine pour pas qu'ils la copient, et après le monde sera bien gardé, les usines au sud et l'intelligence au nord. Formidable. C'est une vraie vision du monde. Il faut regarder, parfois il y a des dérapages dans les textes de Lisbonne. C'est voilà, c'est un espèce de projet comme ça de coupure du monde en deux qui paraît totalement bidon, puisque ça fait bien longtemps que la Chine s'est aussi jouée avec ça, pour prendre cet exemple, et est un énorme dépositaire de brevets. Donc voilà, en fait, ça joue à son mieux. Maintenant, on va essayer de comprendre rapidement, du coup, comment ça se passe, ce renforcement concrètement. Très longtemps, ça s'est passé à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève, qui est l'agence de l'ONU, des Nations Unies, dédiée à la propriété intellectuelle. On ne parlait que de ça. Alors, ça n'a pas été créé en 1886, comme on le voit. Elle a été chargée d'être gardienne de ces vieilles conventions et ces vieux traités du 19e, notamment. Mais c'est là, normalement, que se négocient tous les textes. Et très longtemps, ça s'est bien passé comme ça pour renforcer la propriété intellectuelle. On négociait, par exemple, le World Copyright Treaty, qui a institué les DRM, en 1996. Ensuite, on allait à Bruxelles. Là, on est en 2001. On fait la loi sur le copyright à Bruxelles. Et puis ensuite, on arrivait en 2006, c'est un exemple, mais c'est toujours ce phénomène de cascade. On arrivait en France en 2006, et c'était la loi à l'époque d'Adzi, de renforcement du droit d'auteur, qui instituait des règles. À chaque étape, en Europe, ils disaient « Ah bah écoutez, on a signé un traité au niveau mondial avec l'OMPI, donc on est bien obligé, chers amis parlementaires qui râlaient en disant que c'est un peu exagéré, on est obligé de rester quand même dans le cadre. » Hop, on arrivait en France, pareil. Les députés français étaient debout sur la table. Non, non, on leur disait non, on a des engagements avec l'Europe et avec le pays, donc on ne peut rien faire. Pas de marge de manœuvre. Politique classique comme ça de descente et de ruissellement. Au bout d'un moment, ça a pu marcher. L'OMPI est identifié comme un organisme de pouvoir important. Donc là, j'ai mis des associations, un petit mégaphone. Mais il y avait aussi, évidemment, des pays du Sud qui ont commencé aussi à se rebeller dans cette instance où ils avaient voix au chapitre. Donc ça a devenu beaucoup plus difficile de renforcer les droits des titulaires de droit à l'OMPI. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas allés très loin, ils sont restés à Genève et ils sont allés à l'OMC. Et là, on revient aux ZPIC évoqués tout à l'heure. Et comme ça a été dit très bien, c'est une histoire de trade-off, c'est de la négo, on vous ouvre le marché agricole, en échange, acceptez les brevets. Ça s'est passé comme ça, ça s'est passé dans les green rooms, on a tordu les bras, et moi j'ai eu des témoignages directs, même du patron de l'OMPI à l'époque, parce qu'il était en place, qui était vert, parce qu'il montrait de son bureau les bureaux de l'OMC, qui sont pas loin et qu'on voit, et il disait, maintenant c'est là-bas, pour une raison, c'est que là-bas, ils peuvent négocier et renforcer, faire ce qu'ils veulent. Pareil, à l'OMC, il y a eu des protestations, il y a dit que c'était un lieu de pouvoir. Bon, ça marche plus. On va où? On va où? Alors, est-ce qu'on va là? Non. On essaie de trouver un autre endroit tranquille, parce qu'on ne peut plus négocier Bénin. Non, voilà, non plus. En fait, on a été nulle part, on a été partout. C'est donc l'accord commercial anti-contrefaçon, l'ACTA, qui est donc cette nouvelle étape. C'est le forum shifting. C'est vraiment, on change d'endroit pour négocier quand on n'arrive plus à passer ce qu'on veut dans un endroit donné. Donc l'ACTA, ça a été pire de pire, puisque c'est une instance, c'est rien. L'ACTA, c'est juste une réunion de pays, les plus gros développés, donc États-Unis, Union européenne, Japon, etc., plus quelques autres, qui se sont mis ensemble dès 2007 et qui ont commencé à renforcer les standards, comme on dit, la propriété intellectuelle, pour améliorer la compétitivité des pays du Nord. Voilà. Ils se mettent ensemble, ça négocie pendant 3 ans, dans une opacité totale. Moi, quand j'ai demandé les documents en cours de négociation de l'Union européenne, on m'a répondu là. Je dis bravo parce que le gouvernement français, on ne répond jamais, puis il n'y a pas de délai, on ne sait même pas si on a le droit aux documents, s'ils existent, etc. Au moins, l'Union européenne, c'est déjà ça, les documents sont référencés, on peut les demander. On nous dit non, voilà, pareil qu'en demandant ces documents, je menaçais la sécurité économique de l'Union européenne. Une formulation assez formidable. Voilà. Donc, maintenant, le texte est sur la table, il est en négociation, il n'empêche qu'on est dans un accord international qui est hors de toute instance de négociation habituelle. Qui est très difficile à contrôler, et qu'est-ce qui va se passer si jamais ça finit par être voté, avec les risques qu'on connaît, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais on est toujours dans ce durcissement sur les génériques, c'est-à-dire limiter encore plus les échanges internationaux, les licences obligatoires, etc. En matière de droit d'auteur, l'idée là, c'est plutôt de faire des espèces de police privée, des intermédiaires du net pour empêcher la circulation de la copie, aux attentats à la vie privée, et au passage, ça dirait de créer une institution ad hoc, alors une nouvelle instance internationale qui serait chargée de surveiller tout ça, on ne sait pas trop comment, sous le contrôle de qui, c'est en cours, c'est maintenant que ça se passe, et voilà, sauf que maintenant, il y a aussi du monde en face, que ça râle depuis quelques temps, donc on est un peu à la case départ, et la question, c'est qu'on va passer maintenant à la question de la pratique, je pense que c'est François Castex, après, qui fera un nom qui dit ça de très près au niveau du Parlement européen, puisque c'est évidemment un enjeu de démocratie que de remettre ces questions-là au cœur des débats, avec des élus, sous contrôle des citoyens, et que c'est uniquement avec ce moyen-là que l'industrie des médicaments, les brevets, pourront être remis, sinon sous contrôle, en tout cas remis dans le jeu de la santé publique. Merci.